Je commence, Serge.
Bonsoir à tous. Donc, je vous propose de débuter ce conseil municipal du mardi 19 juillet. Donc, je vais d'abord faire l'appel nominatif. Donc, Julien Fiche, présent. Laurence Gutiérrez. Présente. Gilles Pénoche. Présent. Vanessa Moller. Présent. Philippe Pourteau, donc, a donné procuration à Marie-Christine Mirabel. Virginie Darry-Merlou. Hervé Labadie. Présent. Marina Boinet a donné procuration à Vanessa Moller. Stéphane Maton. Philippe Jory-Guibéry. Sandrine Dreyfus. Présent. Laurent Pétriac. Présent. Jean-Joseph Salmon. Présent. Bruno Milan. Présent. Françoise Argousse. Présent. Serge Beauchir a donné procuration à Bruno Milan. Marie-Christine Mirabel. Présent. Nathalie Sabatier. Présent. Philippe Sabaté. Présent. Hélène Ducoral. Présent. Nicolas Dardy. Présent. Marie Darry-Merlou. Marion Lissayou a donné procuration à Virginie Darry-Merlou. Isabelle Aspeitia. Présente. Florence Roura. D'accord. Mathieu Vigne. Présent. Mike Bresson. Présent. Pénélope Lanterne. Présent. Didier Sors. Donc, je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Virginie Darry-Merlou. Donc, tout le monde a bien reçu la convocation. Pas de souci. Parfait. Donc, on a envoyé le procès-verbal le 2 juin 2022. On n'a eu aucun retour. D'ailleurs, à la fin du conseil municipal, le directeur général des services prendra la parole parce que il y a une évolution de la réglementation sur les comptes rendus. Ce que je vous propose aussi à la fin du conseil municipal, c'est de faire comme on avait pris l'habitude de le faire sur certaines interventions des mandats à l'extérieur de la mairie. Donc on fera un petit point, je me permettrai de faire un point peut-être avec Virginie sur les pas de Léon Lafourcade sur le suivi. Donc je vous propose de débuter donc avec donc les 7 délibérations à l'ordre du jour et notamment donc la première délibération donc sur la construction d'un court de tennis couvert d'un terrain de padel extérieur, l'extension de locaux adjacents. En fait bon voilà, c'est la même délibération que lors du conseil municipal précédent parce qu'il y avait une petite coquille à l'intérieur. Philippe Jory-Guibéry.
Oui, bonsoir. Donc, pour la délibération en construction d'un cours de.
Oui, c'est bon.
Je passe à toi.
Et extension de locaux adjacents, modification, attribution du marché public de travaux. Donc, suite aux délibérations de 2019-104 du 16 décembre 2019, validant le projet de construction, je vous épargne le tableau avec les différents lots. Alors, vu la nouvelle consultation organisée pour le lot numéro 12, vu l'avis favorable de la commission consultative des marchés publics du 20 mai 2022 relative à la présentation de divers avenants, de l'analyse des offres du lot 12 et le procès verbal établi à l'issue, vu la délibération numéro 2022/44 en date du 2 juin 2022 par laquelle le conseil municipal a attribué le dernier lot et entériné les avenants de plusieurs lots du marché de travaux pour la construction d'un court de tennis couvert d'un terrain de paddle extérieur et extension de locaux adjacents. Considérant, suite aux importantes augmentations de prix et le désistement de l'entreprise SARL Busseau-Patrick, attributaire du lot 10, considérant la nécessité de revoir la rédaction de l'article 6 de la délibération 2022/44 en date du 2 juin 2022, le conseil municipal décide que la présente délibération abroge et remplace la délibération 2022/44 prise pour le même objet lors de la séance du 2 juin 2022. De prend acte de l'avis de la commission de retenir l'offre des entreprises désignées ci-dessous pour un montant, donc c'est pour le lot numéro 2, serrurerie Matricube, pour un montant de 27 480 €. De prendre acte de l'avis de la commission d'attribuer le lot 10 au candidat classé en deuxième position, Oyamburu Carrelage, pour un montant de 24 000 € hors taxe. De prendre acte de l'avis de la commission d'accepter les avenants suivants pour les lots 2, 3, 8 et 9. Article 5, d'arrêter le montant prévisionnel définitif des travaux en phase d'appel d'offres à 1 020 113 069 d'euros hors taxes du tableau pour les 14 lots attribués. D'autoriser Monsieur le maire à signer les pièces constituant le marché du lot 12, correspondant pour un montant de 27 480 euros. D'autoriser Monsieur le maire à prendre toute décision et désigner tout document concernant l'exécution et le règlement du présent marché, que le plan de financement précédemment adopté et portant sur les participations forfaitaires de l'État via la DETR 40%, le Conseil départemental des Landes 36% d'un plafond de 750 000 euros hors taxes, avec un coefficient de solidarité départementale 2021 de 0,93, soit un pourcentage sur le projet global de 25,12%, et la Fédération française de tennis, 50 000 euros, sera actualisée en fonction du montant des travaux ci-dessus, auxquels s'ajoutent 45 900 euros hors taxes de maîtrise d'œuvre et 9 265 euros hors taxes d'études, soit au total 1 075 338 euros et 69 centimes hors taxe. Monsieur le maire adjoint en charge de l'urbanisme, du logement et de la mobilité, monsieur le maire adjoint en charge des ressources humaines, des finances et de la qualité du service public, et monsieur le conseiller délégué aux travaux sur les bâtiments, les équipements et espaces publics, ainsi que la voirie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale.
Merci Philippe. Bon, c'est vrai que j'ai laissé Philippe détailler, mais en fait, voilà, il y a juste deux mots qui ont été modifiés. Donc, c'était par rapport à l'article 6, par rapport à la signature du maire qui autorisait à tour de signer les avenants. Voilà, c'était pour ça qu'on refait la délibération, en fait. Pour le reste, rien n'a bougé sur cette délibération. Non, mais voilà, en fait, c'était surtout que dans l'article 6, on autorisait le maire à signer les avenants et je ne suis pas autorisé à signer. Voilà, c'était, et on avait fait l'erreur, il y avait la petite coquille. Je crois qu'il a relu l'ancienne version. Ah, bon, d'accord.
Non, j'ai relu l'article 6.
J'ai entendu parler d'avenants. Peut-être qu'à un moment donné.
D'avenants, c'était par rapport au dernier conseil municipal.
Oui, voilà, c'est ça.
Et là, maintenant, c'est pour ça qu'on refait
l'article. C'était l'avenant. Voilà, c'était vu la délibération 44 du 2 juin 2022, pour laquelle le conseil municipal a attribué le dernier lot et entériné des avenants de plusieurs lots. Voilà, c'est ça, justement. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Je vous remercie. On va passer donc à la délibération 58 sur le personnel donc municipal et du coup la mise à jour du tableau des effectifs, création de postes en vue de nomination et suppression donc évidemment de postes vacants liés à ces nominations. Hervé Labadie.
Donc les modifications qui vous sont proposées sur le tableau des effectifs concernent la création de deux postes. Tout d'abord, pour tenir compte de la réforme de la doctrine d'emploi des puéricultrices de classe supérieure et de la suppression de ce grade, nous avons l'obligation de créer un nouveau poste de puéricultrice hors classe à temps complet au 1er juillet 2022, en remplacement de celui que nous allons supprimer. Il s'agit d'une régularisation administrative sans nouvelle embauche de personnel. Ensuite, nous vous proposons de créer un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet. Il ne s'agit pas là non plus d'une nouvelle embauche d'agent, mais de la stagiarisation en vue de la titularisation d'un agent au 1er octobre 2022, agent qui était en poste dans nos services en CDD depuis janvier 2020. Par ailleurs, afin de poursuivre notre politique de régularisation des agents en CDD dans notre collectivité et qui ont déjà fait l'objet d'au moins une reconduction de leur contrat, nous portons à votre connaissance que deux postes d'adjoints d'animation existant au tableau des effectifs, mais non pourvus à ce jour, le seront par deux agents en CDD à qui nous avons proposé une stagiarisation au 1er septembre 2022 et au 1er octobre 2022. Cela n'entraîne aucune modification du tableau des effectifs. Donc, pour rappel, le nombre d'emplois prévus dans notre collectivité, c'est-à-dire le nombre d'agents, s'élève à 110 pour 94,19 emplois à temps plein. En conséquence, nous vous proposons de créer un poste de puéricultrice hors classe à temps complet et supprimer celui existant de puéricultrice de classe supérieure et un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet et de valider le nouveau tableau des effectifs.
Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ces sujets? Oui, monsieur Bresson.
Oui, j'aimerais savoir combien il y a d'emplois en plus depuis 2019.
Aucune idée.
Alors, il faudrait qu'on refasse le point.
D'emploi ou de poste?
Pardon?
D'emploi ou de poste?
Oui, voilà, c'est ça.
D'emploi ou de poste?
Bon, on vous le communiquera, on se fera un point. Mais le point a été fait dans le rapport d'orientation budgétaire, il me semble. Il y avait le détail dans le, on peut, dans le robe.
À ce jour, c'est 110, donc on va trouver la situation.
Il me semble que dans le robe, ça apparaît. Bon, à voir. Dans tous les cas, on se le garde pour septembre.
On a la réponse.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions?
En l'occurrence, là, sur les 4 personnes, il n'y a aucun nouveau agent. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Je vous propose donc de laisser la parole à Hervé Labadie pour le référent signalement, donc la convention importante avec le centre de gestion des Landes. Hervé.
Alors le décret numéro 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste dans la fonction publique oblige toute autorité territoriale à mettre en place ce dispositif au sein de sa collectivité ou de son établissement public. Le Centre de gestion de la fonction publique et territoriale des Landes, le CDG 40, propose aux collectivités de gérer pour leur compte ce dispositif de signalement par voie de convention. Cette mission proposée par le CDG 40 permettra à notre collectivité de disposer d'une plateforme dédiée permettant de recueillir les signalements des agents dans un cadre de confiance, neutre, impartial et indépendant et respectueux de la demande d'anonymat, d'une expertise et enfin d'un accompagnement individualisé et personnalisé de l'agent. En conséquence, nous vous proposons d'approuver la convention d'adhésion avec le CDG 40 pour la gestion du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'adhésion avec le CDG 40.
Hervé, donc, pour cette délibération, vous le voyez, qui est importante, et c'est vrai que c'est des évolutions positives. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur ce sujet? Bon, le centre de gestion reste un partenaire important pour nous. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité donc pour signer cette convention avec le centre de gestion des Landes sur les violences, les discriminations, le harcèlement et les agissements sexistes. On va passer donc à la délibération suivante. On va parler donc de traitement des déchets avec Marie-Christine Mirabel, donc la convention avec le Sitcom des Landes pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers sur les bâtiments communaux. Marie-Christine.
Alors, c'est une convention, ça marche, c'est sûr? D'accord. Entre la mairie et le Sitcom, elle concerne la collecte des traitements de déchets assimilés aux ordures ménagères qui ne sont pas issues des ménages et la facturation de ce service. Sont concernés les sites suivants, la cantine Jean Jaurès, la cantine de Jules Ferry, l'école Kergomar, les centres de loisirs, Émile Crowe, le cimetière, le mur à gauche, le CTM et Miranda. À la convention est rattaché un guide de collecte et le règlement de la redevance spéciale qui est consultable sur le site internet du Sitcom. 2. La prestation. Alors, c'est la collecte des traitements des emballages recyclables sur leur propre site. La convention ouvre aussi droit aux producteurs, quand je dirais producteurs, c'est producteurs des déchets, l'accès au point de tri du Sitcom pour les encombrants. 3. La redevance spéciale est celle de gros producteurs forfaitaires, tarifs conformément à la grille tarifaire de la redevance spéciale. Et la facturation sera mensuelle et sur la base des pesées effectuées à chaque passage. Bon, je vous épargne si la pesée sont défectueuses, si ceci, cela. 4. Les obligations. Le Sitcom fournit des containers à ces sites-là, assure la collecte au jour défini, assure le traitement et la valorisation des déchets dans le respect du cadre environnemental, répare ou remplace les containers abîmés. Les obligations du producteur de déchets, maintenir les containers en état sans détérioration, propre, désinfecté, etc. et s'acquitter de la redevance. 6. La convention est établie pour une durée de 1 an, elle est renouvelable tacitement et elle est résiliable à tout moment. 7. Les différends et les litiges. Les deux parties s'efforcent en cas de litige de régler à l'amiable. À défaut, c'est le ressort du tribunal administratif de Pau ou la juridiction compétente selon la nature du contentieux. Voilà. Nous proposons.
Merci beaucoup, Marie-Christine. Vous l'avez compris, hein, c'est monter d'un cran nos enjeux de tri au niveau des différents sites municipaux. Ça va un peu aussi, rappelez-vous, dans la délibération d'il y a quelques semaines sur l'agenda 2030, dans le sens de ces enjeux-là. Il y a juste un point, Marie-Christine. Je ne vois pas dans la liste le mur à gauche.
Et pardon, je l'ai...
Il y est. Parce que dans la délibération, il n'y est pas. Alors moi, je vous propose de le rajouter.
Il n'y est pas là.
Il n'y est pas. Ouais, mais je pense qu'il y est.
Il y est sur la première.
Oui, mais dans la délibération, la convention, il y est, et dans la délibération, il n'y est pas. Donc je vous propose, dans le deuxième considérant, de rajouter le mur à gauche Jean Ramon, si tout le monde est d'accord. Parfait. L'espace Jean Ramon, on va dire. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération avec le Sitcom? Vous verrez qu'il y aura d'autres sujets dans les semaines et mois à venir sur le tri, oui, au niveau du scolaire.
Il démarre des conventions en fait sur tous les thèmes. En fait, tout ce qui est ordures ménagères classiques, elles sont ramassées, comme pour tout le monde, par le Sitcom. Les biodéchets, bon, il y a un travail en cours pour un ramassage des biodéchets plus tard, enfin, c'est à l'étude. Et les cartons, effectivement, ce sont les ST qui les ramassent sur les différents points et qui les centralisent au CTM et le Sitcom les ramasse. Mais voilà, ils font des conventions, là c'est le démarrage des conventions sur chaque point, sur chaque thème.
Merci Marie-Christine. C'est bon pour tout le monde, on passe au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient, unanimité donc sur ce sujet pour mettre en place donc le traitement des déchets non ménagers sur les bâtiments communaux. Merci beaucoup. Marie-Christine va garder la parole parce qu'on va faire donc, on vous propose un avenant à la convention de partenariat. Alors je le rappelle le contexte, on avait travaillé avec le CPIE, on avait une volonté d'être un peu plus sur le moyen terme avec le CPIE, le long terme, et du coup on était passé sur une convention qui est sur 2 années, et donc là on propose de faire un avenant. Marie-Christine, donc pour cet avenant à la convention de partenariat 2021-2022 avec le CPIE Seyance Adour, projet d'activité agricole Moulin de l'Anne. Tu peux réouvrir la porte, Didier, s'il te plaît. Vas-y, Marie-Christine.
Il est allumé, oui, je n'entends pas en fait. oui, il s'agit d'un avenant financier. Alors, il y a plusieurs missions. Mission valorisation écologique du site d'Alma. Il s'agit d'un accompagnement pour l'application des prescriptions de gestion et de protection, des apports scientifiques et naturalistes pour le contenu des panneaux explicatifs, caractéristiques écologiques des espèces, enjeux de préservation, un nombre de jours 4, préservation de la biodiversité urbaine, bourg et quartier neuf. Il s'agit du suivi des nids d'hirondelles, des fenêtres, des martinets noirs, des colonies de chiroptères, d'alites, pose de panneaux d'information de présence de la flore remarquable, suivi et gestion des espèces invasives impactant la biodiversité urbaine, suivi de l'arrêté préfectoral de protection des biotopes des chiroptères, enfin des chauves-souris. Un nombre de jours 8. Élaboration de la charte d'urbanisme par un apport d'un appui technique sur les aspects écologiques et développement durable, 2 jours, un appui technique auprès des services techniques, par des conseils techniques, choix d'espèces locales pour des plantations ou des jachères, accompagnement de la rénovation des bâtiments qui abritent de la petite faune urbaine, tels que des nids, des colonies, accompagnement des aménagements de voiries pouvant avoir un impact sur les alites du bourg. Les alites, c'est les petites grenouilles et crapauds. 4 jours. Oui, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ça pourrait être un papillon. Participation au comité citoyen des projets. Alors, projet agricole du Moulin, appui par le suivi et l'animation du site, accompagnement des porteurs de projets concernés, et là, 12 jours. Voilà, ce qui représente au total en nombre de jours prévisionnels pour 2022, 31 jours et un montant de 13 000 euros 20 centimes.
Merci Marie-Christine. Donc là en l'occurrence, voilà, c'est uniquement l'avenant, donc pour 5 040 euros. 5 040 jours, ça fait beaucoup. On ferait du très long terme avec le CPE. Donc voilà, donc c'est surtout pour le moulin de l'âne. Il y a eu une commission d'ailleurs sur place là il y a quelques temps sur ce beau projet du moulin de l'âne. Et donc pour avoir à nos côtés le CPE, Seigneur, c'est Adour. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce sujet? Oui, Gilles.
Oui, je. Un petit commentaire, moi je me réjouis qu'on continue à travailler de si bonne façon avec le CPE. Alors notamment, moi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, même si je n'avais pas pu être à la réunion, c'est... Alors je ne sais pas ce que c'était les alites, mais les chiroptères, je sais maintenant. Et c'est vrai que c'est assez intéressant avec cet arrêté de biotope sur le parcours des chauves-souris entre l'église et le château. Enfin bon, c'est des choses qu'on découvre et on s'aperçoit de l'utilité justement dans nos centres bourgs et nos centres urbains de ces petits animaux qui sont pas forcément sympathiques au premier abord, mais qui sont très utiles. Voilà. Un petit mot aussi sur ce qui est important, c'était donc la participation au comité citoyen de projet. Et on a vu qu'à chaque fois l'apport du CPE a été important, notamment sur les environnements de projet par rapport à la faune, à la flore, la gestion des terrassements, notamment des niveaux topographiques des bâtiments. Et toujours dans une... Bon, ce qui est intéressant, toujours dans une atmosphère et un état d'esprit d'avancée et de concertation, c'est-à-dire on n'est pas trop sur du dogmatique, et moi je trouve que ça c'est important, et c'est vrai que bon, on est certain avoir travaillé sur ce projet agricole du Moulin, bon, là aussi ils ont quelqu'un au CPE qui est très très performant sur cet accompagnement des porteurs de projets, parce que les porteurs de projets, il y en a pas mal, il y a des projets qui sont très sérieux, d'autres qui le sont moins, et c'est vrai que bon, souvent c'est des jeunes couples qui se lancent dans une aventure bon, dans laquelle je ne me lancerai pas moi en tout cas, mais ils ont du courage et je crois que c'est important que bon, dans notre développement de l'idée de circuit court et d'agriculture urbaine, et puisqu'on est quand même au Moulin, on n'est pas très loin du bourg, c'est intéressant d'avoir des gens qui se lancent et qu'on puisse les accompagner. Voilà, donc je pense que voilà, les relations à l'UCPE sont excellentes, à la fois dans la relation classique, mais surtout aussi dans la relation de compétences. Voilà.
Tout à fait. Effectivement, c'est un vrai plaisir pour nous d'avoir ce partenaire à côté de chez nous. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité donc pour cet avenant donc de 5040 euros pour le CPE et le projet agricole du Moulin de l'Âne. On va passer donc à la délibération numéro 62, donc c'est l'approbation du projet d'agrandissement de la médiathèque communale, de son estimation financière et du plan de financement. Et je passe la parole à Laurence Gutiérrez.
Donc vous avez eu en pièce jointe... Vous avez eu donc en pièce jointe l'avant-projet détaillé.
C'est Marie-Christine.
Tu veux celui-là ou là? Tu veux celui-là, Julien?
Ouais, très bien.
Une bibliothèque. Ah. Oui. Une bibliothèque est un équipement public structurant qui permet un égal accès de tous à l'information et à la culture. Elle est aussi un lieu de proximité, un espace de rencontre et de citoyenneté. Notre bibliothèque, lieu de lecture pour l'ensemble des Saint-Martinois, mais également des habitants des 5 communes de l'intérieur du Seignanse, est maintenant arrivée à la limite de ses capacités, tant par sa taille que par son offre culturelle. La culture étant un axe primordial de notre politique, il nous est apparu évident de procéder à une évolution de cet équipement. Un accueil et des horaires d'ouverture plus adaptés, une plus grande variété de services, de meilleures conditions de travail pour nos bénévoles et nos agents. L'extension de cet équipement s'accompagnera pendant toute sa réalisation d'un projet culturel, scientifique, éducatif et social que l'on appelle le PCSES et qui est un document de politique publique par lequel une collectivité détermine les objectifs d'un établissement de lecture publique. Un comité de pilotage avec élus, techniciens, bénévoles de la bibliothèque, maîtres d'œuvre et coordonnateurs culturels s'est réuni à plusieurs reprises en parallèle avec la DRAC, la Direction régionale aux affaires culturelles, et la médiathèque des Landes. Ce projet d'agrandissement a été vu en commission municipale et un conseil citoyen participatif s'est exprimé à ce sujet. L'attribution d'aide étant conditionnée par une surface minimale, je vous rappelle que nous sommes actuellement sur une superficie de 100 mètres carrés et qu'il est préconisé pour une commune comme la nôtre d'avoir une superficie de 413 mètres carrés. Alors c'est pas sorti comme ça. En fait, on compte 0,07 mètres carrés par habitant. Ce nouvel équipement aura une surface totale de 476 mètres carrés et nécessitera le recrutement d'un ou une responsable.
Merci Laurence. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des interventions sur ce projet d'agrandissement? Donc projet majeur, rappelez-vous, donc dans, je parlais tout à l'heure du rapport d'orientation budgétaire, dans le cap politique qu'on s'est donné, il y avait 9 projets structurants et l'agrandissement de la médiathèque en faisait partie. Oui, Laurent. C'est bon, c'est bon. Non. Une seule fois.
Et voilà. Non, c'est parce que je voudrais revenir sur le, vous entendez, ouais, sur le premier conseil citoyen participatif et donc du futur agrandissement de la bibliothèque qui pour moi a été une belle illustration d'intelligence collective. En effet, l'architecte Thierry Giraud, qui est concepteur du premier bâtiment de la bibliothèque, a écouté et retenu dans un vrai climat de coopération plusieurs remarques. Les remarques de terrain de nos bénévoles actuels, les conseils pratiques d'aménagement et l'expérience acquise par les représentantes de la médiathèque départementale qui sont venues spécialement de Mont-de-Marsan, l'esprit de curiosité, le désir d'information des citoyens qui ont été tirés au sort et bien entendu les souhaits en matière d'environnement et de sobriété énergétique du bâtiment des élus. Ainsi, grâce à quelques modifications, nous arriverons à un bâtiment lumineux de 470 mètres carrés, équipé de panneaux photovoltaïques, un parking positionné judicieusement avec des abris à vélo anticipés, une réorganisation de l'accueil, un agrandissement des salles de travail des bénévoles et des professionnels. Il y aura aussi un patio intérieur tout à fait original pour les plus petits des enfants. Ce projet m'apparaît beau, moderne, cohérent, avec nos valeurs de culture pour tous et il devrait correspondre à l'attente des Saint-Martinoises et des Saint-Martinois.
Merci Laurent pour ce beau descriptif. Effectivement, c'est vrai que c'est vraiment un projet qui est bien lancé. Tous les acteurs ont vraiment se sont engagés dans ce projet, et notamment Thierry Giraud, je remercie parce que c'est vrai que c'était un plaisir de travailler avec lui au quotidien et il a de suite ressenti les attentes et c'est vrai que bon, il y a eu quand même, j'étais en train de faire le total des réunions ou rencontres, il y a eu 18 réunions de travail pour ce projet, donc il y a eu aussi un accompagnement important de la part évidemment des partenaires que sont la DRAC, la médiathèque des Landes qui est vraiment un très beau partenaire et je remercie sa directrice madame
Sonnier qui s'est engagé très fortement, qui compte pas les heures. Bon voilà, on est sur un projet avec maintenant une forcément un peu d'impatience pour voir débuter les travaux. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Je vous propose de passer au vote, du coup, pour cette délibération importante, quand même, hein, depuis le début de notre mandat. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité sur ce projet. Je vous remercie. Je précise que le dépôt du permis de construire a eu lieu, du coup... Et donc, on va passer donc toujours avec Laurence Gutiérrez sur la convention pour l'organisation d'un spectacle dans le cadre du festival Chantons sous les petits pins. Laurence, c'est à toi.
Donc, il s'agit d'une convention entre la commune et l'association Chantons sous les pins afin de finaliser un partenariat financier et logistique. Le 4 novembre 2022, la commune co-organise un festival composé d'une représentation à destination du jeune public avec l'association Chantons sous les pins. Le coût de cette représentation est de 4 105 €, avec une prise en charge de la commune de 2 050 €. L'entrée donc sera au même prix que l'année dernière, donc à 4 €, gratuit pour les Saint-Martinois. Et il y aura également une séance de médiation le matin avec le centre de loisirs et le spectacle aura lieu l'après-midi.
Merci Laurence. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce partenariat qui dure, qui est un chouette partenariat avec cette association Chantons sous les pins? Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité également sur cette dernière délibération. Je vous remercie. Alors il y a eu beaucoup de décisions importantes. Alors sur la première décision donc qui ont été prises, donc l'actualisation des tarifs municipaux, en fait c'était surtout pour les familles ukrainiennes qui étaient sur la commune. Donc voilà, donc c'était un tarif adapté évidemment. Ensuite il y a eu la décision 2022-6, plafonnement de révision à 2% pour les loyers d'habitation des logements communaux pour l'année 2022, parce qu'évidemment on a autrement des repères qui s'envolent au niveau des loyers. Donc il nous semblait important de maintenir et de plafonner ces loyers à quelque chose de raisonnable, puisqu'on est quand même sur des locations à vocation sociale sur la commune. La décision pardon numéro 7, c'est l'achat et la pose de jeux d'enfants donc pour la cour Pauline Kergomar, donc pour l'entreprise Casso. C'est la même entreprise qui avait installé le City Stade au quartier 9. Donc ça c'est une décision donc qui a eu lieu le 9 juin. L'attribution du marché de travaux pour la réfection d'un local commercial, donc place Jean Ramon à BAT Pays Basque, donc le 20 juin pour un montant de 7 415 €. Et la décision numéro 9 sur le logiciel Abellium qu'on fait évoluer parce que bon voilà, on trouve que ça serait une bonne chose de faire évoluer ce logiciel en France jeunesse qui a plusieurs années, une bonne chose surtout pour les parents, pour amener un peu plus de souplesse, de simplicité, de rapidité. Et donc c'est avec dans la version Domino Web 2 pour un montant de 23 910 €. Hors taxe. Donc voilà pour les 5 décisions. Vous avez reçu donc
le local commercial, c'est
oui, tout à fait. Oui, puisque la commune n'a qu'un local commercial sur cette place Jean Ramon, malheureusement. On aimerait bien en avoir plus, mais bon. Quoique, bon. À voir, ça dépend.
Vous avez reçu donc les rapports d'activité essentiellement du CIDEC, mais aussi de l'agence de l'eau à Dourgaronne, les rapports donc sur l'énergie, ça concerne évidemment tout ce qui concerne les candélabres, tout ce qui concerne la borne électrique voiture, les rapports eau et assainissement. Et le rapport numérique du CIDEC. Donc, je ne sais pas si ça amène des questions ou des commentaires. Bon, les travaux majeurs pour 2022, vous les connaissez, c'est donc le lotissement Bellevue, avec des superbes travaux vraiment, alors qui n'étaient pas du tout aisés et qui se sont passés merveilleusement bien, et notamment avec des relations avec les riverains, vraiment très positives, parce que c'était pas une mince affaire pour eux d'habiter sur pendant les travaux pour logement, hein, quand même il y avait beaucoup de désagréments évidemment, puisque je rappelle donc que c'est une mise en séparatif, et on en a profité pour faire la lumière, et ensuite il y a toujours le plan au niveau des candélabres, hein, pour penser en LED qui se poursuit. La commune, je crois de tête à 300 candélabres, hein, donc c'est quelque chose qui est sur 4 ou 5 ans. Et ensuite sur les prochains travaux et assainissement, ils sont quand même liés au schéma pluvial que la commune a lancé et dont les premiers rendus ont eu lieu la semaine dernière, avec quelque chose d'important. Hein. On voit bien que les schémas pluviaux ont une réelle importance, puisque je rappelle que la communauté des communes a décidé d'avoir des schémas pluviaux à l'échelle de la communauté des communes, sur toutes les communes, puisque ce qui n'était pas une chose faite aujourd'hui, donc c'est une bonne chose pour tous ces sujets de ruissellement. Donc ensuite, au niveau des questions diverses, il y avait deux questions diverses donc pour Saint-Martin Nouvelle Ambition. Donc vous avez communiqué le vendredi 15 juillet sur l'organisation des bus des Fêtes de Bayonne. Nous avons pu constater qu'il n'y a qu'un bus par heure en journée. À partir de 20h, quelle sera l'organisation? Combien y aura-t-il de bus? Effectivement, le réseau Tchitchak a communiqué donc semaine dernière, puisqu'on adhère à ce syndicat depuis maintenant un peu plus d'une année, et donc dans l'émission de ce transfert de compétences, il y a le bus des têtes. Et c'est vrai que, comme vous le savez, il y a une situation exceptionnelle en ce moment, avec de grosses difficultés au niveau de toutes les agglomérations de France, puisqu'il y a une pénurie de chauffeurs, d'ailleurs qui concerne aussi d'autres métiers, hein, d'autres métiers en tension, hein, les auxiliaires de vie, les serveurs. Et donc c'est sûr qu'on peut regretter les premières communications avec un bus par heure, c'est sûr que c'est compliqué. Donc nous on est en lien avec le syndicat qui fait de son mieux, hein. Je remercie d'ailleurs les techniciens et le prestataire Keolis qui font le maximum. On n'a toujours pas l'information, on ne sait pas aujourd'hui quelle va être exactement l'organisation, parce qu'on est presque au jour le jour là, pour aller à la pêche aux services supplémentaires. Ils font leur maximum pour avoir évidemment l'attente qui se doit d'être maximale. Toutes les communes sont concernées, hein, évidemment. Hein. On est tous logés à la même enseigne, que ce soit Mauguère, Saint-Pierre-des-Rubes, j'en parlais encore avec des maires pas plus tard que ce matin. Donc voilà, donc on est en attente. À ce jour, on ne sait pas. Je peux pas répondre combien il y aura de bus la nuit, notamment sur le. Pourquoi la nuit d'ailleurs, il y a le jour, puisqu'il y a la question du dimanche. En tout cas, nous on a évidemment fait nos remontées, on a partagé des constats, on a partagé des statistiques évidemment pour construire ces lignes, mais là aujourd'hui c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde en ces périodes tendues. Oui, monsieur Bresson.
J'aimerais savoir si vous avez envisagé à un moment donné, comme on l'a fait tous les ans depuis 2014, de lancer un appel d'offres, courant février ou mars, plutôt que d'attendre que la communauté d'agglomération vous dise on a des problèmes de chauffeurs. vous auriez pu avoir la certitude qu'effectivement les entreprises ne répondaient pas parce qu'elles n'avaient pas de chauffeurs. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on avait depuis 2014 une très nette amélioration de la distribution pendant les fêtes de Bayonne. Ça correspondait à une volonté que je pense vous reprenez à votre compte, c'est-à-dire celle de la sécurité, de faire des fêtes pour les jeunes et les moins jeunes dans des conditions, on va dire, très nettement améliorées par rapport à ce que c'était auparavant. Et je crois que ça a été un tel succès que cette année, il va y avoir une énorme déception dans la population. Je voudrais vous citer quelques chiffres. L'année 2017 est l'année où on a transporté le plus de demandes. On a vendu 6800 billets, ce qui correspond à 13 000 personnes transportées depuis Saint-Martin vers Bayonne et de Bayonne vers Saint-Martin. Les enfants avaient des billets gratuits. On ne sait pas si demain les enfants pourront voyager gratuitement par le réseau Tchitchak. Le voyage était direct jusqu'à la place des Basques. Là, il va falloir changer de bus au niveau de Leclerc, avec toutes les difficultés qu'on imagine, sachant que c'est quand même un arrêt qui se trouve au pied de la Grande Zuppe. Donc il y a du coup, je veux dire, il y a une fréquentation extrêmement, mais il y a une fréquentation extrêmement importante, sans, enfin, voilà, il y a Leclerc, enfin, c'est... Bon, ce qui veut dire qu'un bus avec 50 passagers qui débarque à Leclerc, je doute que les 50 passagers qui descendront du bus pourront monter dans un bus directement pour aller à Bayonne. Donc là aussi, ça va faire du mécontentement. Alors, moi je ne sais pas qui a négocié ça avec les services de l'agglomération. Ce que je sais, c'est que j'ai eu en charge ces négociations en 2019 et que j'avais demandé à ce que la commune de Saint-Martin reste compétente, ce qui avait été accordé. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que c'est une opération sur laquelle tous les ans et de manière régulière, sauf une année, sauf en 2016, parce que c'était au lendemain des attentats de Nice et des attentats de 2015 à Paris, la fréquentation des fêtes de Bayonne avait baissé de 30%. Donc il y avait une baisse significative dans la fréquentation du bus, en plus avec une météo qui n'était pas des plus favorables, et on s'est retrouvé effectivement avec un déficit d'environ 1000 euros. Toutes les autres années, sans exception, on avait un bénéfice sur l'opération de 4000 euros. Le coût global de ce bus, y compris les trois dernières années où on avait sensiblement remonté la fréquence des bus, là on parle d'un bus par heure. Sachez que en 2017, 2018, 2019, on avait un bus tous les quarts d'heure le dimanche matin, toutes les 20 minutes le jeudi matin, toutes les demi-heures le samedi matin et le vendredi matin, il n'y a que le mercredi matin, où une année on avait mis un bus de bonne heure vers 10h pour que les festailles puissent participer à l'arrivée de la Corica. Bon, finalement, il n'y avait pas eu grand monde, il y avait eu 10 personnes dans le bus. Mais tous ces bus ont circulé depuis 2017 jusqu'à 2019 avec une moyenne de 50 passagers. Alors, avant 2017, c'était encore plus, et on était en irrégularité totale, puisque c'était des bus interurbains, et certains ont voyagé avec 90 passagers à l'intérieur du bus. Donc, j'aime autant vous dire que quand la population va prendre conscience de ce qu'on lui offre comme niveau de service, moi, j'ai pas envie, en tant que conseiller municipal, de porter la responsabilité de ce fiasco. J'estime que c'est un fiasco dont la municipalité porte une partie de la responsabilité, et c'est dramatique. J'espère sincèrement, que le conseil municipal n'aura pas sur la conscience un accident d'un jeune rentrant des fêtes de Bayonne.
Arrêtons avec ces phrases, là, stop.
Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'estime que c'est lamentable, vous auriez lancé un appel d'offres, monsieur le maire, en février, sans réponse. Je n'aurais pas tenu les mêmes propos et j'aurais considéré qu'effectivement, la responsabilité n'appartenait pas au conseil municipal. Là, vous ne l'avez pas fait. Vous avez considéré comme argent comptant tout ce que vous raconte la communauté d'agglomération et le syndicat mixte. Écoutez, un ticket de bus à 8 euros, alors que la prestation avec
Il y a 55 allers-retours. 55 allers-retours dans la journée, sur les 5 jours. On en avait 74 dans la journée. Plus tous les retours, le soir, les allers et les retours. En tout cas, en 2018 et 2019, il y avait 102 allers et 172 retours. Regardez ce qu'on va avoir comme niveau de prestation et combien ça va représenter s'il y a 5000 passagers à 8 euros. C'est-à-dire que le bénéfice va être intégralement pour la société qui organise tout ça. Moi, je trouve franchement lamentable.
Et vous pensez que cette année, vous auriez pu faire des billets à 5 euros avec la dotation des carburants ?
Non, mais aujourd'hui, M. Bresson, on ne vous demande pas 2010.
Est-ce que vous auriez pu faire des billets à 5 euros cette année ? Non, vous auriez pas cette année.
Peut-être qu'on ne pourrait pas lui augmenter, effectivement. Ah. Non, mais avec une offre de service tout à fait différente. Aujourd'hui, moi j'ai une question.
Si vraiment on reste à un bus par heure la journée, comment vous allez gérer la sécurité au niveau des bus? Et comment vont faire les personnes qui auront acheté leur ticket à 8 euros à l'office de tourisme ou sur Bayonne, parce que je crois qu'il n'y a que ces points de vente, si elles ne peuvent pas monter dans le bus. Si, parce que c'est ça, un bus, si vous avez 200 personnes devant l'arrêt de bus à midi ou à 13 heures, comment on fait? Qui va gérer la sécurité? Parce qu'on sait bien que même quand il y a des bus, il y a des bousculades, on a pu le voir. Et voilà, et on a appelé des bus de réserve, etc. Aujourd'hui, s'il y a un bus toutes les heures, comment vous allez gérer? Ben, c'est ça, c'est cette sécurité là aussi, la sécurité pour tous ceux qui vont à la balle en voiture, parce que aujourd'hui, on entend plein de personnes qui nous disent, alors si c'est ça, un bus par heure, mais enfin, on prend la voiture, ou alors on se sacrifie, on va pas au fait et on va chercher nos jeunes. Enfin, aujourd'hui, moi, c'est le retour que j'en ai.
Mmh. Alors, merci beaucoup. Donc la première chose importante, c'est que je fais partie, comme M. Bresson, qui est élu en même temps que moi en 2008 au conseil municipal, des élus qui ont vendu les tickets, organisé les services, je veux dire, et pas depuis 2014, avant, je veux dire, comme tout le monde. Oui, c'est pas le sujet là, Monsieur Bresson. Il y a toujours, laissez-moi terminer. Je vous ai pas interrompu. Il y a toujours dans votre manière de communiquer, forcément, à un moment donné, le mandat de 2014-2020 et notamment toujours pareil, votre façon de négocier et le reste. La réalité, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Et la réalité, c'est que en tant que majorité, on est comme l'ensemble des conseils municipaux du secteur. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Saint-Pierre-des-Rubes, à Villefranche, à Mouguère ou dans d'autres villages qui nous ressemblent, dans la même situation. Et qu'on est là pour gérer une problématique. Et que c'est tellement facile de dire, eh bien oui, bien sûr, monsieur le maire, si il y a 6 mois vous aviez su, mais monsieur Bresson, vous suivez l'actualité comme moi, il me semble même peut-être plus intensément que moi, vous savez très bien que cette situation sociétale au niveau de l'emploi en France, elle explose la figure de tous les responsables, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient élus, qu'ils soient responsables d'associations, on est tous aujourd'hui avec des problématiques. On a de plus en plus de témoignages, on a eu au CIS des problématiques de ressources humaines, on a des restaurants qui ferment parce qu'ils n'ont pas de serveur, et on a aujourd'hui des chiffres, on pourrait tous en donner, on pourrait tous faire des bilans chiffrés ou pas, des projections financières ou pas. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on regrette tous la situation. On est tous conscients, on est tous... Moi, je prenais... Oui, vous vous inquiétez pas pour moi, Monsieur Bresson. En termes de responsabilité, faites-moi confiance. Stop. Non, allez, je finis mon intervention. Je vous passe la parole et ça sera mieux pour la qualité des débats. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que tout simplement en termes de sécurité, évidemment que c'est un sujet important et évidemment que la communication et l'information qu'on fera auprès des Saint-Martinois comme à l'ensemble de la population, parce que la responsabilité, elle est territoriale aujourd'hui. J'étais en conseil syndical du syndicat des mobilités, donc il y a 8 jours, on a tous parlé de ça pendant plus d'une heure, évidemment, on n'est pas plus bête que d'autres, on a tout à fait conscience de ça. C'est une responsabilité, si on est élu, c'est pour regarder les problèmes, essayer de trouver une solution, et derrière d'offrir le meilleur des services, évidemment, j'allais dire.
Je me suis pas levé ce matin en m'occupant de ce sujet aujourd'hui. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que on ne sait pas quel sera le service pendant les fêtes de Bayonne. Comme je vous l'ai dit, ils font leur maximum pour avoir la meilleure des qualités de service derrière. Il faudra communiquer, sensibiliser le public effectivement sur un service qui peut pas s'organiser comme il était, comme il y a d'autres collectivités qui communiquent en disant « Eh bien tiens, au niveau des personnes âgées à domicile, eh bien on arrête le service, on a réduit de moitié, c'est des collectivités ici, à côté de chez nous, et c'est le même enjeu de service public. » Eh bien là, ça sera le même enjeu de service public en termes de sécurité. Je voulais juste corriger vos propos. Le changement à Leclerc n'est que pour les journée, hein, c'est lié. Non, vous l'avez pas précisé, donc je le précise. C'était que pour les journées, que le reste, donc, c'est un arrêt, donc place des Baffes, comme ça l'était précédemment sur Saint-Martin-de-Seignanx, que la sécurité, elle, assurée sur Bayonne au départ, et effectivement, il y aura peut-être à se poser la question sur la dépose à Saint-Martin. On verra en l'occurrence quand on aura le service qui sera ajusté. Je voulais juste dire que, encore une fois, je vais insister sur la situation exceptionnelle. La commune, justement, puisque vous êtes à essayer de à chaque fois faire des bilans équipe par équipe, alors que je trouve que ça n'a pas de sens quand on est tous autour de la même table du conseil municipal. Pour l'année 2022, sur les fêtes de Saint-Martin, on a voulu mettre en place des navettes, tout simplement, voilà, qui vont dans le sens de la sécurité du public, d'abord sur Saint-Martin. Eh bien, à ce jour, aucun prestataire ne peut nous garantir le service. Voilà, tout simplement. Et il y a quelques mois, quand on avait déjà fait des devis, puisque vous me parlez d'une situation en février, ils étaient tous partants. Voilà. Il y a simplement qu'aujourd'hui, pourquoi on parle des fêtes de Bayonne, maintenant, pourquoi vous en parlez, pourquoi vous m'en avez pas parlé en février, en mars, en avril? Tout simplement parce que c'était pas le sujet et qu'en février. Mais oui, non, mais je sais que vous avez toujours une longueur d'avance sur tout le monde, Monsieur Bresson, hein, tout le monde en est conscient ici, mais la réalité, c'est que en responsabilité, on gère et on essaie de trouver la meilleure des solutions. Et là, c'est ce qu'on fera, on essaiera de trouver la meilleure des solutions, comme on a toujours essayé de le faire. Tous les élus, et pas simplement le mandat d'avant, le mandat d'après, tous les élus de Saint-Martin-de-Seignanx ont essayé de faire le meilleur. Point barre.
Sachez qu'à l'heure actuelle, syndicats des mobilités ne sont pas assurés d'avoir de transport. Perorade, Labène, Seignos, Cabreton, pour l'instant, ils ont zéro transport. Oui, toutes les communes, vraiment, autres que le syndicat des mobilités. Là, nous, avec, au moins, on est sûr d'avoir un bus par heure. Toutes les autres, pour l'instant, n'ont aucun bus. Oui, c'est rien de plus. La nuit, on va en avoir aussi.
Oui, mais voilà,
la nuit, on va en avoir.
Si c'est un toutes les heures, ça va être pareil.
Les autres agglomérations, les autres communes n'auront zéro bus. Je ne sais pas si vous en avez conscience de ça, quand même.
Moi, je voudrais quand même revenir sur... sur un élément. De 2001, je crois, peut-être un peu plus tard, à 2013, il n'y avait de bus que le soir.
On s'en fiche.
Monsieur Fichot,
vraiment, sincèrement, je vous apprécie des fois, mais des fois, ça m'agace. C'est infernal.
Pourquoi vous le prenez pour vous?
Non, c'est pas pour moi, justement. C'est vous, justement.
Mais non, mais
c'est
je dis de 2001
allez-y,
à 2013.
Allez-y, expliquez-moi qu'en 2014, tout a évolué.
Mais il se trouve que c'est en 2014 que les choses ont changé. Ça aurait pu être en 2013 et j'aurais cité 2013.
Caricatural au possible.
Est-ce que je peux finir? Je peux finir?
Bien sûr.
Bon, donc de 2001 ou peut-être un peu plus tard à 2013, il n'y avait de bus que le soir. Il se trouve que depuis les années 90, la fréquentation des fêtes de Bayonne a très sensiblement augmenté en journée. Donc il y a énormément de monde qui va à Bayonne la journée et qui rentre en début de soirée et qui n'y passe pas la nuit. Et il y en a de plus en plus et il y en aura de plus en plus. Sauf peut-être les jeunes, parce que les jeunes, je parle des jeunes de 16 à 25 ans, eux c'est vraiment, ils restent le soir. Mais des personnes de nos âges vont plutôt dans la journée. Donc ça, c'est un changement fondamental.
Et quel est le rapport avec notre problématique d'aujourd'hui?
Mais justement, c'est que les gens ont pris ces habitudes depuis 2014, mais j'aurais pu dire 2012 si ça avait été 2012, de prendre le bus en journée. Et vous n'imaginez pas, parce que vous ne l'avez pas fait en journée, le monde qu'il peut y avoir. Le monde qu'il peut y avoir, et parfois, alors ça s'est toujours passé plus ou moins dans la bonne humeur, mais je crois qu'il y a eu une ou deux fois où il y a eu des altercations avec des gens du voyage, me semble-t-il. Voilà. Bon, ça s'est bien passé parce que on a fait appel à des bus supplémentaires. Le problème que citait Isabelle tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes qui, de bonne foi, pensant avoir un niveau de service cohérent, achètent un ticket ou achètent plusieurs tickets à 8 euros et vont se retrouver le bec dans l'eau à l'arrêt ici à au bourg ou même à Gogny parce que il y aura 100 personnes qui attendent. Moi, je pense que ça va retomber sur la municipalité. C'est ça que je suis en train de dire.
Oui, je compte sur vous pour cela. Au vu de vos publications sur les réseaux sociaux, je vous fais confiance. Je vous fais confiance sur ça. Je ne serai pas dessus, je pense.
Vous êtes gêné pendant 5 ans.
Ah, jamais de cette manière. Là, vous le savez très bien. La différence entre vous et moi,
c'est ça, oui.
C'est ça, monsieur Bresson.
Mais depuis, on exerce. Vous en avez jamais parlé.
C'est de la même manière notre mandat depuis 2008. Bon. Je connais parfaitement, monsieur Bresson.
La prestation qui a été réalisée avec donc autant de bus qu'on le souhaitait, c'était 3 chauffeurs.
Non, mais monsieur Bresson, je vous arrête. Là, on n'a pas besoin de rentrer, je vous coupe. C'est très bien, mais on a tous compris l'intention, on a tous compris la problématique, on les partage tous. Il n'y a pas besoin de revenir nous expliquer. On fait les fêtes de Bayonne comme vous depuis des années. On sait que c'est en journée. Là, on va revenir au sujet.
Non, mais oui, mais justement.
Non, on revient au sujet, là, monsieur Bresson, on arrête.
J'y viens au sujet.
Stop, ça suffit.
Donc, vous nous dites que toutes les communes sont à la même enseigne.
Oui.
Bien. Les communes en question sont toutes des communes qui étaient préalablement dans le syndicat des mobilités.
Ou pas, oui. Ou pas, parce que vient de dire Philippe Jury-Libéry, vous l'avez entendu, le Cabreton, la Benne, c'est la même chose.
Moi, ce dont je parle, c'est du service que le syndicat nous rend. D'accord ?
Oui, mais c'est pas le sujet, là, monsieur Bresson.
Le service qu'il rendait l'année dernière et les autres années, à ces communes que vous avez citées, Bidart, Biarritz, Bayonne, Tarnos, Boucau, Saint-Pierre-d'Irube, était le même que celui qu'ils auront cette année.
Mais non.
Si je vous le dis.
Ah, non.
C'était le même.
Non.
C'est-à-dire, dans la journée, c'était les bus normaux, et il n'y avait de bus des fêtes de Bayonne que le soir. Voilà. Donc ça, ne venez pas nous dire que les communes sont à la même enseigne que nous. Je pense que si on avait négocié correctement,
oui,
on aurait pu obtenir un niveau de service dans la journée meilleur que celui qu'on a.
En tout cas, monsieur Bresson, vous savez très bien ce que je vais vous répondre. La réalité, c'est que les bus sont à Saint-Martin-de-Seignanx 2021, on a tous œuvré pour ça, vous un petit peu plus que les autres, on l'a bien compris, mais en tout cas, très modestement, je le redis, clairement, on est tous conscients de la situation, on va faire notre maximum pour avoir le meilleur des services. La commune est très satisfaite et je peux vous dire que de journée après journée, tout le monde me parle de notre adhésion au réseau Tchitchak. Donc voilà, donc on fera au mieux avec tout le monde, en écoutant tout le monde, en essayant d'aller vers la sécurité publique et sans faire de polémique, surtout, ça c'est le plus important. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, monsieur Bresson, je trouve que le lieu des réseaux sociaux pour les élus n'est pas le bon lieu, tout simplement. On en parle sur les comptes. Jamais je n'ai mis un message sur Bouger Saint-Martin. Monsieur Bresson, c'est la vérité. C'est la réalité. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je vous ai répondu. Je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux qu'un élu privilégie les réseaux sociaux pour communiquer. Je trouve ça fabuleux. Voilà. Mais oui, on le sait, monsieur Bresson. Ça, on le sait. On le sait très bien. Mais moi, je vous le dis, en tant que maire, je trouve normal. Bon, allez-y.
L'honnêteté, c'est de faire ce que je fais.
Oui.
La malhonnêteté,
Mais non, ça vous inquiétez pas pour la sincérité de nos actions. En tout cas, moi je vous le dis en tant que maire, je trouve regrettable que la première des communications avec la collectivité que vous fassiez, c'est par les réseaux sociaux de cette collectivité. Je vous encourage à utiser plutôt les... Laissez-moi terminer, monsieur Bresson, vous êtes gentil, mais laissez-moi terminer. La meilleure des communications, je vous le conseille, c'est le conseil municipal, c'est le mail, mais... En tout cas, en tant que maire, je vous le demande. Voilà. C'est votre... Vous faites ce que vous voulez, évidemment. Mais moi, en tant que maire, je vous le dis. Mais non. Je vous dis simplement... Arrêtez avec vos... J'ai le droit d'insister qu'en tant que maire, sur mon conseil municipal, je trouve plus approprié de débattre en conseil municipal plutôt que sur les réseaux sociaux. Mais allez-y, continuez. Gilles.
Je vais juste apporter... Une précision quant aux négociations. Je pense que, comme l'a dit le maire, on nie pas les difficultés et que le service il sera évidemment pas tout à fait pas le même que l'année dernière. Par contre, quand on a commencé à discuter avec le syndicat des mobilités et avec son directeur, s'il y a une chose qu'il a retenue, c'était justement le bus des fêtes de Bayonne et justement pour aller dans le sens du service qui existait. Pourquoi ? Parce que tu l'as dit, Mike, c'est un service qui est bénéficiaire. Et aujourd'hui, le syndicat de mobilité, s'il peut mettre en place un service bénéficiaire, il va pas... c'est pas la navette qui traverse la Dour avec 82 centimes. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment acter que ces difficultés qui ont été évoquées, c'est ça qui est la résultante. À un moment donné, le syndicat de mobilité, lui, s'il peut faire du bénéfice, sur les fêtes, il l'aurait fait aussi. Il n'y a pas eu d'ambiguïté par rapport à ça, hein. Ça a été clair aujourd'hui, voilà, mais c'est pas possible pour les raisons qui ont été évoquées, notamment sur la pénurie de chauffeurs.
Merci Gilles. Nicolas Dardy.
C'est bon. Oui, donc je voulais juste rappeler à la mémoire sélective de M. Bresson, faire un petit peu de politique fiction. Imaginons que vous ayez remporté les élections voici 2 ans. Vous nous aviez dit, quand on avait parlé de l'adhésion au syndicat de mobilité, que vous vous souhaitiez passer par la communauté de communes. Nul doute qu'avec vos qualités de négociateur, ça se serait passé sans problème. Mais aujourd'hui, vous seriez devant les mêmes difficultés que nous. Une pénurie de chauffeurs, c'est indépendant de notre volonté. C'est indépendant de la volonté du syndicat de mobilité. Et comme on essaie de vous faire passer le message depuis tout à l'heure, on va faire de notre mieux pour convoyer le plus de faire possible, mais voilà, avec les contraintes qui sont les nôtres et qu'on ne pouvait pas maîtriser quand on a adhéré au syndicat de mobilité.
Donc, sur la deuxième question, vous n'avez pas communiqué sur les dates de marché nocturne, cela veut-il dire qu'il n'y en aura pas cette année? Alors, Vanessa Moller, sur les marchés nocturnes.
Alors... Tout simplement, les marchés sont en perte de vitesse. Notamment, l'office de tourisme a arrêté les marchés du terroir du Seignan, s'il n'y en aura pas. Pour les fêtes de Saint-Martin, il n'y en aura pas. Du coup, nous, on a réfléchi et on s'est penché sur d'autres animations comme Terrasse et Salsa et le ciné de plein air. Voilà.
Je suis pas d'accord. Tout à fait d'accord avec le fait qu'ils sont en perte de vitesse parce que moi je vais régulièrement sur des marchés nocturnes comme.
Sur Saint-Martin, c'est bien aussi.
Je pense que pendant 3 ans, il n'y en a pas eu.
Oui.
Ils n'étaient pas en perte de vitesse, les marchés nocturnes.
Je pense que oui.
Je
ne suis pas d'accord.
D'accord.
Mais moi, je te dis qu'au niveau fréquentation et au niveau diversité d'ambulants, on ne peut pas dire qu'il y avait une diversité et une animation. Tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Voilà. Je pense qu'il y a une perte de vitesse, peut-être de 2014 aussi, peut-être.
Peut-être.
Ouais. Sauf que non, je suis pas d'accord, il n'y a pas de perte de vitesse. Il y avait des ambulants qui venaient régulièrement, qui étaient contents d'être là. Des Saint-Martinois et Saint-Martinoises, et c'était encore un moment où il y avait du lien social, comme pour les casetas. Aujourd'hui, on perd les casetas, on perd les marchés nocturnes.
Et ce lien social où on avait, qu'on avait vraiment, mais avec les familles, du coup, avec les familles Saint-Martinais, c'était des moments.
Je te répète, les 4-7 ne sont pas annulés, ont été reportés par manque de bénévoles et d'associations participantes. Après, je te propose de venir samedi soir à la terrasse et salsa. Tu verras que le lieu est lié. Tu es autour d'une terrasse, tu auras des danseurs. C'est vraiment sympa. Tu peux venir, tu passes un très bon moment. Donc, le marché nocturne, j'ai le souvenir d'avoir des brèves dentières en début de votre mandat. Oui, je me rappelle très bien. Et on avait des tapis, on les avait installés. Et après les prestations, elles étaient quand même en dedans du niveau de marché nocturne. Il fallait continuer à faire le marché nocturne, il y avait d'autres animations, tout simplement. Puisque elles étaient.
En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu aimerais à des marchés nocturnes. Ben non, parce que je pense qu'il faut un peu amener de nouveautés, de diversité, et on a penché sur d'autres animations, qui marchent très bien. Je t'invite à y participer.
Et je crois qu'on est malheureusement...
Vas-y. Oui.
Je crois qu'on est malheureusement en concurrence avec des marchés nocturnes sur le littoral, hein, avec le marché de Hondre, le marché de La Benne, le marché de Cabreton, qui attire quand même beaucoup plus les touristes, il faut le dire, que Saint-Martin-de-Seignance.
Oui, en fait, il y a eu un changement qui est important, parce qu'avant, il n'y avait pas de marché nocturne hebdomadaire à Hondre. En fait, ça c'est le directeur de l'office du tourisme qui nous a guidé sur ça, puisque vous doutez bien qu'effectivement les marchés nocturnes c'est une manifestation assez habituelle sur les côtes l'été, et effectivement nous on était tout à fait enclin à poursuivre cela, mais la réalité c'est que voilà, c'est en perte de vitesse, et surtout il y a la concurrence de Hondre et La Benne, puisque La Benne, juste pour mémoire, pour ceux qui l'auraient pas noté, il y a maintenant même 3 marchés par semaine, dont 2 nocturnes, donc en fait, et ils captent énormément de demandes sur Hondre et La Benne, et c'est vrai que nous du coup l'objectif évidemment d'animation est aussi comblé avec cinéma plein air et terrasse et salsa, et c'est vrai qu'il y a de la diversité au niveau des animations.
Julien, au début les cassettas c'était pour les associations, et le marché nocturne avait été fait pour les commerçants de Saint-Martin. C'est pour ça que je trouve dommage que pour les commerçants de Saint-Martin qu'il n'y ait plus rien.
Alors
les derniers qu'il y a eu, ils n'étaient même pas ouverts, on ne pouvait même pas aller s'acheter une baguette de pain pour faire des sandwichs au pâté qu'on achetait chez des gens qui étaient là. Oui, pour relancer. Mais bon, à un moment donné, il y a une réalité aussi. Quand les commerçants ne adhèrent pas, et je parle de 2019, c'est le cas.
Et terrasse et salsa, tu peux venir samedi, que ce soit les cahiers, le bistrot ou le tacos, il y avait les terrasses pleines et il y avait même de l'attente de 1h30 chez le tacos. Donc, le but, c'est de faire travailler les commerçants aussi. En aucun cas, on propose de la boisson ou de quoi manger.
Oui, oui, oui. Non, mais ce que je voulais dire, Mathieu, c'était plus l'objectif.
Moi, c'était les
voilà.
Moi, oui. C'était les objectifs, et après, c'était de faire au quartier neuf et au bourg. Toro et Sassa, est-ce qu'il va être au quartier neuf?
Non, on te confirme, non, pas de Toro et Sassa.
Si vous voulez.
Non, mais c'est une bonne.
Est-ce qu'il y aura au quartier neuf?
Oui, mais en tout cas,
on est là.
C'est une bonne. Sur le quartier neuf, effectivement, c'est une bonne remarque. Parce que c'est vrai, on l'a vu là, vendredi 8. Par exemple, dans les animations municipales, il y a eu la soirée famille qui a été faite au quartier neuf. Et c'est vrai qu'il faut garder cet équilibre entre le quartier et le bourg. Moi, je suis tout à fait
d'accord. On a fait le bal des maillets.
Et le bal des maillets, ouais, tout à fait. Bon, merci beaucoup. Juste, je vais passer la parole à Serge Lartigue pour les modifications au niveau des comptes rendus.
Merci. Je vais faire un rapide. Donc, en fait, on a une réforme de publication des actes des collectivités locales qui rentre en vigueur à compter du 1er juillet. Donc, concrètement, par rapport au conseil municipal, il n'y aura plus de compte rendu du conseil municipal tel qu'il était fait dans les 8 jours après le conseil municipal. En fait, ça reprend le corps des délibérations et puis le sens des votes de chaque élu. C'est remplacé par une liste très succincte de délibérations prises qui indique juste si la délibération est approuvée approuver ou rejeter. Ça, c'est la première modification. La deuxième, c'est que le procès verbal, on peut comment on fait là, ça peut changer la force du monde, mais on l'approuvera au conseil municipal d'après et on aura un délai d'une semaine pour le publier, sachant que maintenant le mode de communication commun devient la dématérialisation, la publication électronique. Il y aura toujours un document papier à disposition du public qui le voudrait, mais maintenant c'est l'insertion sur le site internet qui fera foi et pas la publication papier. Et enfin, on a la disparition du registre des actes administratifs qui existait auparavant, qui recensait l'ensemble des actes de la collectivité et qui disparaît totalement. Voilà, je voulais juste préciser ça.
Merci Serge. Pour terminer le conseil, du coup, quelques informations sur les pas de Léon Lafourcade, donc le conseil d'administration. Je laisserai aussi peut-être la parole à Virginie ou sur la situation. Moi, je voulais juste insister sur un point. Donc, tout se passe bien à l'EHPAD depuis la sortie de cette crise sanitaire. C'est vrai qu'on retrouve les moments conviviaux. C'est vrai que au niveau des projets, tout se remet en route. Je voulais quand même les dernières discussions. Quand même, il y avait quand même peut-être un projet sur du moyen terme d'agrandissement. De l'EHPAD principalement lié au pôle ressources, le pôle ressources donc de l'EHPAD. Tu peux peut-être expliquer le pôle ressources, tiens Virginie, en lien avec le pôle ressources, et donc c'est un agrandissement qui débute gentiment sa réflexion, qui est pour l'instant au stade vraiment de l'embryon. Il y a quand même beaucoup de capacités foncières autour de l'EHPAD. Donc on l'a abordé depuis deux conseils d'administration avec les administrateurs, et on va continuer peut-être à l'envisager. Aujourd'hui, l'EHPAD est dans un cycle financier important où voilà, elle retrouve beaucoup de capacités financières, donc pour continuer à aller de l'avant et pour surtout accompagner ce dynamique au niveau du pôle ressources, Virginie.
Oui. Donc le pôle de ressources, c'est un dispositif qui vise à améliorer l'accompagnement donc des personnes âgées. Des personnes âgées qui en perte d'autonomie hein, quand on avance dans l'âge. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place avant la crise du Covid. Donc c'est en partenariat avec le CIAS de la communauté des communes. Donc certaines personnes âgées sont repérées et sont accompagnées de manière spécifique pour qu'il y ait une espèce de transition entre la vie à domicile et éventuellement une entrée plus tardive en EHPAD. Donc c'est des activités, alors au départ c'était des activités collectives qui étaient proposées au sein de l'EHPAD, donc des activités pour maintenir le maximum d'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne. Et donc par exemple du yoga assis, du sport adapté, tout un tas d'activités. Et ensuite, donc en lien avec la crise sanitaire et donc le Covid, pour ne pas tout stopper brutalement et pour essayer de s'adapter et continuer d'accompagner les personnes âgées sur le territoire, sachant qu'il y a une demande très 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 forte, le service s'est adapté en allant, au lieu que ce soit les personnes âgées qui viennent régulièrement chaque semaine au sein de l'EHPAD, c'est donc les professionnels, dans le cadre du pôle ressources, qui vont au domicile. Donc ça s'est développé en individuel pour proposer des activités aux personnes âgées. Donc aujourd'hui, ils sont dans un entre-deux, ils continuent à proposer des moments individuels et ils essaient de relancer des activités collectives.
Oui, voilà, je préférais en parler parce que c'est vrai que ça prend de plus en plus d'importance par rapport au maintien à domicile, c'est un vrai sujet. Donc voilà, donc je peux pas vous détailler aujourd'hui le projet qui accompagnera ces réflexions parce que c'est trop tôt, mais voilà, c'est quand même c'est un établissement important de la commune, donc je préférais partager avec vous ces réflexions. Bon, merci à tous, passez un bel été. On se retrouve alors sur la date du conseil municipal de septembre, on a quelques incertitudes, donc je préfère pas communiquer, ce sera pas avant le 8 en tout cas, ça c'est sûr, pas avant le 8 septembre. Merci à tous, soufflez bien et profitez de l'été. Bonne soirée.